Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec RFI Midi. Anne Cantner, bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour 2h30, reportage et analyse. Et nous irons d'abord ce lundi 30 septembre au Liban, toujours en guerre, avec des bombardements israéliens dans plusieurs régions du pays, y compris dans le centre de Beyrouth. L'armée israélienne confirme avoir tué le chef du Hamas au Liban, alors que le Hezbollah, lui, promet de continuer son combat en soutien au mouvement palestinien. Malgré la mort d'Hassan Nasrallah vendredi, les civils, eux, tentent de fuir. Ils sont près d'un million de déplacés aujourd'hui, selon le gouvernement. Et ceux qui en ont les moyens, et les Libanais de la diaspora, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de monter dans un avion.
Israël n'épargne ni les civils ni les enfants. C'est ça qui fait peur, qui terrorise. Celui qui dit le contraire est un menteur. Toute notre vie n'est faite que de sang, de terreurs successives. Nous ne savons pas trouver la tranquillité, la stabilité.
Nous appellerons nos envoyés spéciaux au Liban dans un instant et nous verrons avec notre invité à midi et quart en universel ce que peut faire le Hezbollah maintenant. On lui demandera aussi pourquoi les autorités libanaises et le reste de la classe politique restent aussi silencieuses. Dans une demi-heure, l'actualité en Europe et cette victoire historique de l'extrême droite en Autriche. Le FPE est en tête et ses militants ont fêté ça jusque tard dans la nuit hier.
Il faut que les choses changent et l'une d'entre elles est l'immigration que nous devrions rendre un peu plus sélective afin de prendre les personnes dont notre pays a vraiment besoin. Chez les Américains, on dit « America first », mais chez nous, c'est mal de dire « Österreich first », l'Autriche d'abord. Et ça, je ne comprends pas.
Un reportage de notre correspondante à Vienne, le FPE a obtenu presque 29% des suffrages hier. C'est mieux que ce que les sondages avaient prédit, mais cela ne garantit pas de pouvoir gouverner. On verra ça tout à l'heure. Et puis la surprise en France, les Bleus, c'est fini pour Antoine Griezmann. À 33 ans, Griezou raccroche en disant sa fierté, son émotion pour les souvenirs en équipe de France, notamment bien sûr le titre de champion du monde en 2018. Vous l'entendrez dans quelques instants. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI Midi.
Et pour commencer cette journal, bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour.
Avec cette première déclaration du numéro 2 du Hezbollah depuis la mort du chef du mouvement libanais Hassan Nasrallah.
Dans un discours à la télévision tout à l'heure, Naïm Kassem affirme qu'un successeur sera choisi au plus tôt. Il souligne aussi que le Hezbollah continuera à viser Israël et se dit prêt à faire face à une éventuelle opération terrestre israélienne au Liban.
Si les Israéliens veulent franchir la frontière, les forces de résistance sont prêtes pour ça. Nous sommes préparés à ça, nous les attendons, nous ne dépendons que d'Allah. Nous sommes sûrs que l'ennemi israélien n'atteindra jamais ses objectifs. Nous serons victorieux à la fin des fins. Je veux dire à nos familles et à nos chers sympathisants que je sais que le sacrifice est grand. L'ennemi travaille à deux choses. Un, à attaquer nos militaires et éliminer leurs leaders. Deux, à détruire les villes, les villages, et créer des failles dans notre résistance et parmi la population.
Voilà Naïm Kassem, le numéro 2 du Hezbollah, dans un discours tout à l'heure à la télévision.
Pour le moment, Israël poursuit ses frappes aériennes et notamment dans le sud du pays.
Oui, où le chef du Hamas au Liban, Fatah Sharif, a été tué la nuit dernière. L'armée israélienne l'a confirmé. Frappe également en plein cœur de la capitale libanaise. C'est une première depuis près d'un an à Beyrouth intramuros où l'on vous retrouve à Abla Junaidi. Vous êtes en direct avec Jadel Khoury pour les moyens techniques. Vous vous êtes rendu dans ce quartier de Kola où le bombardement a fait 4 morts cette nuit.
Oui Charlotte, l'intersection de Kola, c'est le lieu de départ des bus pour la Beka et le sud du Liban. C'est un immeuble qui a été visé par l'aviation israélienne. Au lieu du 4e étage, c'est désormais un trou béant. 4 personnes ont été tuées, dont 3 membres du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, un parti nationaliste pro-palestinien. Un des témoins que nous avons interrogé, sous le choc, est passé à côté de la mort. Il était juste en dessous de l'immeuble et a reçu des morceaux de l'immeuble sur son pare-brise. C'était à 1h du matin. Originaire de Marjaïoun, une région du sud du pays, pilonnée encore aujourd'hui par l'aviation israélienne, il cherchait avec sa famille le moyen de partir se réfugier en Syrie. Cette frappe est la première, vous l'avez dit, depuis un an, à toucher le centre de Beyrouth. Jusqu'ici, les bombardements israéliens frappaient la banlieue sud, sous domination du Hezbollah. Fatalistes, les chauffeurs de bus du quartier de Kola, les yeux au ciel, nous disent que plus personne n'est à l'abri de cette guerre et qu'il faut s'en remettre à Dieu.
Abla Jounaïdi en direct de Beyrouth avec Jadel Khoury. Un deuil national de 3 jours a débuté là-bas au Liban après la mort d'Hassan Nasrallah. Les populations civiles continuent de fuir les zones ciblées. Près de 100 000 personnes ont franchi la frontière vers la Syrie selon l'ONU et l'exode se poursuit. J'ajoute cet appel du Premier ministre libanais. Il plaide pour un cessez-le-feu avec Israël. Déclaration après un entretien avec le ministre français des Affaires étrangères en visite à Beyrouth, Jean-Noël Barrault. Un résultat qui dépasse ses rêves les plus fous, c'est ce que dit le leader du FPÖ en Autriche après le score inédit du parti d'extrême droite aux législatives hier. Près de 29%, mais la formation fondée par d'anciens nazis n'est pas sûre de gouverner. Elle devra trouver des partenaires pour former une coalition.
Un résultat salué par Marine Le Pen en France, selon la leader du Rassemblement National. Les idées portées par les extrêmes droites en Europe sont une lame de fond.
Marine Le Pen sur le banc des accusés à partir d'aujourd'hui avec plusieurs cadres de son parti. Soupçonné d'avoir détourné des fonds européens pour payer des salariés du RN. Le procès va s'ouvrir là dans une petite demi-heure à Paris. Marine Le Pen encourt 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et une peine d'inéligibilité qui pourrait être un sérieux obstacle dans la course à la présidentielle de 2027, Valérie Gasse.
C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Marine Le Pen. Dans ce procès, elle joue son avenir politique et sa capacité à être, comme elle le souhaite, candidate une nouvelle fois à la présidentielle de 2027. La décision de la justice aura donc un impact politique en ouvrant ou fermant la porte aux ambitions élyséennes de celle qui apparaît aujourd'hui comme une favorite du prochain scrutin. Condamnée à une peine d'inéligibilité, elle serait empêchée. Marine Le Pen réfute les accusations dont elle est l'objet et défend que des assistants parlementaires ont forcément un rôle politique auprès de leurs députés pour nier le détournement de fonds. Il n'empêche que l'issue est incertaine et que dès avant la décision des juges, ce procès qui va durer deux mois risque de la fragiliser. Elle qui essaie depuis les dernières législatives de jouer le rôle de celle qui détient dans ses mains l'avenir du gouvernement Barnier en votant ou non une motion de censure. L'objectif de Marine Le Pen sera donc de se défendre sur le fond et sur la forme en faisant de ce procès une tribune pour dénoncer une opération politique, un argumentaire rodé au RN.
Valérie Gasse, c'était il y a quelques minutes, le Conseil de l'Europe a décerné le prix Vaclav Havel à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, cette opposante de 56 ans qui vit dans la clandestinité dans son pays depuis la réélection très contestée du président Nicolas Maduro en juillet. Le naufrage d'une embarcation au large de Djerba, cette île touristique dans le sud-est de la Tunisie, c'était ce matin à l'aube. La justice fait état de 12 morts, 12 Tunisiens dont des femmes et des bébés qui tentaient d'émigrer clandestinement vers l'Europe. 29 personnes ont pu être sauvées.
Antoine Griezmann et l'équipe de France, c'est fini.
Grisou, Grisi a annoncé sa retraite internationale, vice-capitaine de l'équipe de France, champion du monde 2018. Il est temps de tourner une page, c'est ce qu'il dit dans une vidéo diffusée sur son compte X.
C'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble.
Antoine Griezmann, 137 sélections, 44 buts, 33 ans et donc désormais jeune retraité. Didier Deschamps dit prendre acte de cette décision avec beaucoup d'émotion. Antoine était et restera un monument du foot français. Du fond du cœur, merci pour tout, conclut le sélectionneur de l'équipe de France. Et puis les artistes francophones ont le vent en poupe. La plateforme musicale Spotify a dévoilé son top et parmi ceux qui s'exportent loin de leurs frontières, le Belge Stromae qui plaît en Amérique latine, la chanteuse Indila appréciée en Amérique du Nord, les rappeurs Gazo et PLK qui cartonnent en Europe ou encore Aya Nakamura qui, elle, est écoutée jusqu'en Asie. Presque 13h10 ici à Paris, RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Charlotte Hydrac. On va parler de l'actualité en France durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi. La France à midi.
La pauvreté augmente dans le pays, on en parlait il y a quelques jours, et on apprend aujourd'hui que cette tendance est particulièrement marquée chez les personnes âgées.
J'ai une retraite de 1100 euros par mois. Je ne me sens pas pauvre, hein. Je me sens un petit peu dans le besoin par moment parce que je ne peux pas aller au cinéma, à des manifestations, etc., etc. Je peux plus inviter d'amis parce que j'ai pas les moyens de leur faire à manger. Ça mène à l'isolement social. Sinon, eh bien, j'arrive, en gérant bien mon budget, j'arrive à me nourrir. Qui plus est, j'ai une petite voisine qui me nourrit tous les jours. Elle m'amène mon petit repas, le repas du soir. Par sympathie, à mon avis, ça m'aide à acheter moins de nourriture. Mes difficultés, c'est par exemple l'été, quand il y a la canicule, je ne mets pas mon ventilateur parce qu'il y a 2 ans, ma facture d'électricité a explosé. Donc, je reste dans la chaleur où il fait plus de 30 degrés chez moi. Donc, ça, c'est une réelle difficulté.
Martine Bourgerie a 73 ans et comme elle, 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté en France. Nous recevons pour en parler le délégué général de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Bonjour Yann Lanier.
Bonjour.
Votre organisation publie un rapport aujourd'hui assez édifiant. Et même s'il faut rappeler que la pauvreté touche moins globalement les seniors que d'autres générations, elle augmente aussi dans cette tranche d'âge et très nettement depuis quelques années.
Oui, tout à fait. La pauvreté en France touche en tout 9 millions, un peu plus de 9 millions de personnes. Et parmi ces 9 millions de personnes, c'est un des chiffres que nous mettons en avant dans ce rapport des Petits Frères des Pauvres, 2 millions de ces 9 millions de personnes ont plus de 60 ans. Alors la pauvreté, c'est quelque chose qui n'est bien sûr pas facile à vivre à tous les âges de la vie, mais quand on vieillit, quand on a travaillé toute sa vie, et puis quand des phénomènes physiques, même du vieillissement, vous rendent peut-être parfois la vie moins aisée, la pauvreté rajoutée à cela, c'est proprement insupportable.
Et puis, ça n'est pas vraiment une surprise, mais vous documentez dans votre rapport que les personnes qui vivent seules sont plus susceptibles d'être pauvres que les autres.
Oui, on assume les charges d'un logement seul. Alors, on a la vision de personnes âgées qui vivent dans de petits logements. C'est pas toujours le cas. Vous savez, quand vous êtes, par exemple, veuf ou veuve et que ce veuvage, au-delà du deuil et de la tristesse, vous amène une baisse considérable de vos revenus, vous pouvez, par exemple, vivre à la campagne dans des maisons qui sont compliquées à chauffer. Bref, il y a tout un tas de situations. Les visages de la pauvreté, l'âge venu, sont multiples. Mais c'est vrai que nous avons mis également en avant dans ce rapport le nombre de privations que les personnes s'infligent en quelque sorte, comme le témoignage que vous venez de diffuser à vos auditeurs, comme celui de Martine, où effectivement, avoir trop chaud en période de canicule, c'est aussi un des effets de la pauvreté.
Avec aussi des conséquences, c'est un peu un cercle vicieux. On entendait Martine Bourgerie nous dire qu'elle se privait d'un certain nombre d'activités, de loisirs, qu'elle n'osait inviter personne chez elle. Ça rend ces personnes-là encore plus seules.
Bien sûr, la pauvreté est un facteur aggravant de l'isolement social. Les Petits Frères des Pauvres sont spécialisés sur la question de la lutte contre l'isolement social. Et effectivement, la pauvreté fait que, comme le disait Martine, vous avez du mal à rendre une invitation, vous avez du mal, et puis là, des phénomènes de honte, hein, parfois. Et petit à petit, vous renfermez et vous diminuez votre cercle relationnel. Et ça pose tout un tas d'autres problèmes. On fait aujourd'hui très clairement le lien entre la diminution des relations sociales d'une personne et l'apparition de maladies neurodégénératives.
Et puis il y a une autre catégorie de personnes, si je peux dire, qui est très touchée par la pauvreté, ce sont les femmes. Là, il y a plusieurs raisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles ?
Alors, il y a tout d'abord un effet générationnel où on a où l'espérance de vie fait que aujourd'hui, en tout cas en France, dans les tranches d'âge les plus élevées de la société, il y a plus de femmes que d'hommes. L'espérance de vie est un petit peu différente entre les deux catégories. Et puis là aussi, selon les parcours, eh bien, vous pouvez avoir des trajectoires de vie qui ont été défavorables au revenu des femmes, la retraite arrivant. Notamment, ce sont très très souvent elles qui, au cours d'une vie, se sont sacrifiées en arrêtant leur carrière pendant quelques mois et quelques années pour élever des enfants, par exemple, et qui donc arrivent forcément à la retraite avec des tout petits revenus. Je voudrais vraiment préciser qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté, c'est 1 200 euros dans notre pays, 1 216 euros pour une personne seule, et que le minimum vieillesse, qui est une allocation différentielle qui vient compléter les revenus des personnes, elle plafonne à 1 000 euros, c'est-à-dire 200 euros en dessous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est notre première revendication. Il y a notamment une pétition qui est en ligne dès aujourd'hui sur le site des Petits Frères des Pauvres pour que le minimum vieillesse soit réévalué à minima au seuil de pauvreté et pas 200 euros en dessous.
Et alors, puisque vous parlez des aides sociales, il y a un autre point assez marquant dans le rapport que vous publiez, c'est que une personne sur deux, parmi celles qui sont considérées pauvres, ne bénéficie d'aucune aide.
Oui, c'est ce qu'on appelle le non-recours. Alors aujourd'hui, le non-recours, c'est un phénomène que la puissance publique documente de plus en plus, mais on a à la fois des personnes qui ne connaissent pas leurs droits et qui sont loin de se douter qu'ils ont le droit à des aides, et puis vous avez un maquis d'aides et de situations qui fait que d'autres, simplement parce que ils ne maîtrisent pas l'outil informatique, aujourd'hui renoncent à demander des aides. Donc effectivement, le fait de lutter contre le non-recours et d'avoir des logiques d'automaticité de versement des aides, on l'a vu l'hiver dernier quand le gouvernement a souhaité aider les ménages les plus modestes avec un chèque énergie, les personnes concernées n'ont pas eu de démarche à effectuer. Ce sont les fichiers de Bercy et les fichiers fiscaux qui ont permis à ces personnes de recevoir automatiquement, sans les demander, ces 100 euros. Et bien, sur les aides sociales, il faudrait aussi vraiment développer la distribution automatique en fonction de la situation des personnes. La big data, si je peux m'exprimer ainsi, permet de faire ça assez facilement aujourd'hui.
Alors, il y a les droits et puis il y a ce qu'on ressent, la manière dont ces personnes vivent leur situation. Et on entendait dans le témoignage, et c'est aussi quelque chose que vous avez noté, un certain nombre de ces personnes ne se ressentent pas pauvres.
Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est pas de la honte. Il y a aussi des parcours de vie qui ont habité, enfin où des gens ont en quelque sorte organisé leur vie en fonction des revenus qui étaient les leurs. Mais quand on les laisse parler, et vous l'avez fait avec Martine, sur le nombre de privations et le nombre d'arbitrages qu'ils sont censés faire pour arriver à ne pas être dans le rouge à la fin du mois, la situation de pauvreté, elle est totalement avéré. Et puis on a aussi pointé dans ce rapport des choses qui, moi, me sont totalement insupportables. Se dire qu'aujourd'hui, malgré les dispositifs existants, notamment de mutuelles sociales, vous avez 10% des personnes pauvres que nous pointons dans ce rapport qui n'ont pas de mutuelle, et 20% quand vous descendez sous des revenus en dessous 750 euros.
Donc là encore, un problème d'aide sociale. Je vous remercie beaucoup, Yann Lanier, d'avoir été en ligne avec nous, délégué général de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Merci.
RFI à Paris, 89 FM.
Dans l'actualité également, Marine Le Pen et plusieurs cadres d'extrême droite devant la justice. À partir d'aujourd'hui, la chef de file du Rassemblement National et 24 personnes sont jugées pour des soupçons de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016. À l'époque, le parti s'appelait encore Front National. Il est accusé d'avoir embauché des assistants parlementaires au niveau européen, donc payés avec des fonds européens, mais de les avoir fait travailler en fait pour le parti en France. On retrouve tout de suite Laura Martel au tribunal judiciaire de Paris. Laura, l'audience doit commencer dans une dizaine de minutes maintenant.
Oui, et Marine Le Pen vient d'entrer dans la salle d'audience après s'être avancée dans son manteau trois quarts gris, visage sérieux, vers les confrères qui ont pu l'interroger. Alors j'étais un peu plus loin, je n'ai pas pu entendre ce qu'elle disait, mais évidemment l'enjeu est fort pour la chef de file du RN qui doit comparaître notamment aux côtés de Louis Alliot, vice-président du RN actuellement, ou encore de Julien Odoul, son porte-parole. L'audience pourrait commencer par plusieurs questions de procédure avant que la présidente fasse le résumé du dossier.
Alors, que reproche-t-on aux prévenus, Laura ?
Et bien pour l'accusation, alors que le Front National était en grande difficulté financière, le mouvement politique a mis en place de manière concertée et délibérée un véritable système de détournement de fonds européens entre 2004 et 2016. Comment ? Eh bien en utilisant les enveloppes, on parle de 21 000 euros mensuels, qui sont alloués à chacun des eurodéputés, enveloppes utilisées pour rémunérer ses assistants parlementaires. Sauf que ces assistants travaillaient en réalité pour le parti, selon l'accusation, ce qui est interdit par la réglementation européenne. On parle par exemple du garde du corps historique de Jean-Marie Le Pen ou de la chef de cabinet de Marine Le Pen. À noter d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen, 96 ans, lui aussi poursuivi dans ce dossier, est considéré comme inapte à être jugé pour raison de santé. Il ne devrait donc pas être jugé au cours de ce procès. Procès pendant lesquels les prévenus sont poursuivis pour détournement de fonds publics ou complicité et recel de ce délit pour un préjudice estimé à 3 millions d'euros, dont 1 million a déjà été remboursé par des procédures de recouvrement, selon l'avocat du Parlement, Patrick Maisonneuve.
Et quel rôle aurait joué Marine Le Pen dans cette affaire ?
Eh bien, Marine Le Pen était la décisionnaire principale in fine de ce système, soutient le parquet. Elle est d'ailleurs poursuivie notamment pour complicité par instruction de ces détournements. Alors, parmi les éléments à charge, il y a notamment ce mail envoyé à la présidente du parti en juin 2014. « Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen », l'alerte le trésorier Valéran de Saint-Just, lui aussi poursuivi aujourd'hui. Des eurodéputés ont témoigné qu'au cours d'une réunion, c'était à la même période, Marine Le Pen aurait exigé qu'ils recrutent un seul assistant par eux-mêmes, le reste de leur enveloppe devant être mis à la disposition du mouvement. Dans la foulée, l'un de ses parlementaires avait écrit au trésorier « Ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs ».
Et que dit la défense ?
Eh bien, les prévenus contestent en bloc. Ils demanderont la relaxe. La défense du mouvement tient essentiellement en trois points. D'abord, il n'y a pas de détournement de fonds publics car les assistants parlementaires ne sont pas des salariés du Parlement mais des employés des eurodéputés. Ensuite, ils ont un rôle politique. Ce n'est donc pas au Parlement de décider du contenu de leur travail. Enfin, si Marine Le Pen a pu donner des instructions pour recruter au sein de sa couleur politique ou exercer un droit de veto, il n'y a aucun système. Sinon, tous les eurodéputés du parti seraient poursuivis, affirme l'eurodéputé Alexandre Varro, qui est le porte-parole du parti pour ce procès.
Et l'un des enjeux de ce procès, Laura, c'est une éventuelle peine d'inéligibilité pour Marine Le Pen.
Et oui, cette peine facultative d'inéligibilité d'un maximum de 10 ans peut-elle assombrir ses ambitions présidentielles, notamment pour 2027 ? Eh bien, encore faut-il qu'il y ait d'abord condamnation, bien sûr. Puis, si la peine est décidée, si elle est assortie de sursis, ce ne sera pas un obstacle. Si elle est ferme, on peut imaginer qu'il y a un appel. Cet appel est suspensif, lui aussi. Il faudrait donc attendre un second procès. La Cour peut toutefois ordonner, ce qui est plus rare, l'exécution provisoire de cette peine. Un dernier cas qui pourrait menacer plus sérieusement sa candidature sur la présidentielle, même si la présidente du FN garderait sa capacité à faire appel.
Laura Martel, en direct avec Robin Cusneau pour les moyens techniques.
RFI Midi.
Vous l'avez peut-être entendu ces derniers jours, plusieurs entreprises comme Amazon ou Ubisoft ont demandé à leurs salariés de venir travailler plus souvent dans les bureaux, 3 jours par semaine minimum. Et chez Ubisoft, cette volonté de la direction a été très mal reçue puisque plusieurs syndicats appellent à une grève de 3 jours le mois prochain. Mais cela a montré à quel point le télétravail a pris de l'ampleur. Parfois, il est même considéré comme un prérequis par certains salariés. Et pour beaucoup, les règles que veulent imposer les entreprises ne sont rien d'autre qu'un recul de leurs droits, Lorraine Aduret.
La visioconférence, pour certaines personnes, cela rappelle la pandémie de Covid-19. Au plus fort de la crise, le télétravail s'est imposé dans nombre d'entreprises et s'est bien souvent pérennisé. Aujourd'hui, ceux qui en bénéficient n'envisagent pas de revenir en arrière. C'est notamment le cas de Natalia Markov.
Ce jour de télétravail me permet de faire des tâches qui demandent de la réflexion, de ne pas être dérangée. C'est bien d'être au calme et de ne pas avoir des salariés qui viennent nous poser des questions toutes les 5 minutes. Ça me permet également une cohésion entre ma vie perso et ma vie pro. Et ça évite aussi les 30 minutes de route, donc une qualité de vie meilleure quand même.
Du côté des entreprises, ce mode de fonctionnement semblait d'abord être la solution parfaite. 4 ans plus tard, elles font marche arrière. Il faut retrouver du collectif, cet esprit d'équipe qui a parfois disparu.
Bonjour, Benoît Serre.
Benoît Serre est président de l'Association nationale des DRH.
On voit bien que ça nuit à la productivité collective, à la collaboration. Avec le télétravail, il y a une distanciation qui se met en place vis-à-vis de l'entreprise, mais également vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis du projet commun que pourrait constituer une entreprise. La dynamique de collaboration, elle est moins évidente ou moins naturelle ou moins efficace lorsque vous êtes derrière des écrans de Teams que quand vous êtes tous ensemble.
Le télétravail est largement considéré comme un acquis. Il peut tout de même avoir des conséquences pour la santé des salariés. C'est ce que souligne la sociologue Marianne Le Gagneur.
Tout le monde apprécie le télétravail et il n'y a pas du tout de volonté de retourner en arrière. Le seul enjeu, c'est de prendre conscience des troubles que ça peut apporter. Pour les gens qui font beaucoup de télétravail, il y a plus de troubles du sommeil, il y a plus de maux de dos parce qu'on travaille plus longtemps.
Outre ses conséquences physiques, le télétravail peut entraîner des troubles psychologiques à cause de l'isolement des employés. Pour Benoît Serre, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important aujourd'hui de renégocier les accords signés en urgence entre 2020 et 2021.
C'est l'occasion de les rediscuter en essayant d'évaluer comment ils ont fonctionné, les plus, les moins. Est-ce que ça implique que le télétravail va reculer ? Moi, je ne le crois pas. Je pense que ça implique que le télétravail va s'organiser. Si on ne le fait pas, alors il reculera.
Selon l'INSEE, en 2023, environ 47% des entreprises françaises ont intégré une part de télétravail. C'est le double d'avant la pandémie.
Reportage de Lorena Duret.
RFI Midi. RFI à Saint-Louis, 99.7 FM.
Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture à présent, une dramaturge française et sénégalaise, Penda Diouf, connue pour son engagement féministe. Elle présente en ce moment sa dernière pièce au Festival de Limoges, dans le sud-ouest de la France. Cette pièce s'appelle La Grande Ourse et Penda Diouf en parle à Muriel Malouf.
Bonjour Penda Diouf.
Bonjour.
La Grande Ourse, c'est votre dernière création. Alors qui est La Grande Ourse ?
Alors La Grande Ourse, c'est une femme qui se retrouve confrontée à la violence du monde et notamment à des violences policières et qui essaye de trouver les forces en elle-même pour résister en fait et qui petit à petit commence une transformation en ours.
Alors justement, on part d'un fait complètement anodin, c'est en fait une dystopie que vous avez écrite.
Oui, donc c'est une femme qui va chercher son enfant à l'école et ils mangent tous les deux un bonbon. Et un papier de bonbon tombe malheureusement et elle se retrouve petit à petit prise en fait dans un univers cauchemardesque qui la dépasse et qui va l'obliger à aller chercher en elle-même les ressources et à questionner cette question de l'imaginaire pour... Voilà, comme mode de survie.
Parce qu'en fait, elle tombe entre les mains de la police qui l'interroge et on rentre dans un schéma complètement absurde.
Oui, exactement. C'est à la fois traiter la question de la surveillance et des caméras de vidéosurveillance, des réseaux sociaux aussi, de certains médias et travailler à la fois la question aussi du genre, de la race, bien évidemment, la question de l'imaginaire, des histoires qui sont racontées, de l'exil, de l'immigration et du rapport à la nature.
Alors, il y a des personnages assez particulier. Il y a par exemple un personnage qui s'intitule Les Mauvaises Langues.
Oui, alors Les Mauvaises Langues, c'est vraiment toutes les rumeurs de la ville et dans notre société, tout ce qu'on peut considérer aussi comme vecteur d'oppression. Par exemple, je pense aux réseaux sociaux, il y a toutes les injonctions qu'il peut y avoir sur les femmes et le corps des femmes notamment. Donc Les Mauvaises Langues, c'est un peu tout ça.
C'est un texte extraordinairement bien écrit et il y a des phrases qui jaillissent comme perdre sa force face à la violence du monde, ce n'est pas de la folie, c'est l'ultime réconfort. Évidemment, quand on voit ce que le monde traverse aujourd'hui de violence, de guerre et aussi de violence aussi envers votre propos, c'est les femmes, cette phrase résonne et l'idée c'est aussi que d'accepter la faiblesse, c'est ça.
Oui, c'est ça. Je pense que cette femme, dans son parcours, accepte à un moment donné d'être vulnérable et de ne plus être suffisamment en force pour s'occuper comme elle le souhaiterait de sa famille et de son enfant. Et du coup, il y a aussi l'idée de sidération et comment la sidération peut nous empêcher de dire les choses, de parler, de dénoncer et également d'agir. Donc c'est aussi travailler à renverser cet effet de sidération-là.
Alors, à la fin, l'homme, le mari de cette femme, meurt, il se pend, il ne supporte pas. Elle-même est tuée. On pourrait penser que c'est une fin extrêmement sombre, mais pourtant, il reste sa main qui a écrit, qui est offerte à son garçon, comme si l'écriture, la pensée, pouvait nous délivrer.
Oui, exactement. Il y a une forme de transmission à la fois parce qu'elle a un fils. Donc c'est comment l'écriture peut être un moyen d'action et un levier. Et l'art, plus globalement, l'écriture et l'art peuvent être des leviers pour supporter un monde qui ne tourne pas toujours très rond.
Merci Penda Diouf pour cette superbe pièce, La Grande Ours, qu'on peut voir au festival Les Ébrios d'automne à Limoges. Merci.
Je vous remercie beaucoup.
La dramaturge française et sénégalaise Penda Diouf au micro de Muriel Malouf au festival de Limoges dans le sud-ouest de la France. Merci d'être avec nous sur RFI. On se retrouve dans 30 secondes maintenant pour parler de l'actualité en Europe. A tout de suite.
RFI à Prague, 99.3 FM.
Vous m'en direz des nouvelles.
Musique, cinéma, littérature, exposition, bande dessinée, spectacle vivant, photographie, gastronomie. Du lundi au vendredi, Culture et Découverte s'invitent en France et dans le monde pour exciter nos cinq sens et partager le bonheur des trémus.
Vous m'en direz des nouvelles. Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast préférée.